Retour à international, RFI, TV5 Monde avec le quotidien français Le Monde. L'invité aujourd'hui est Guenema Koulibaly, ministre ivoirien de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques. Avant cette pause d'actualité, nous évoquions la justice que vous estimez en train de se reconstruire en Côte d'Ivoire, mais le fait que ce soit à la Haye, à la Cour pénale internationale, que se passent des choses importantes. Et notamment le fait qu'il soit actuellement jugé l'ancien président qui a perdu dans le processus électoral, donc Laurent Gbagbo, est-ce que c'est le bon endroit? On dit que c'est, je vous ai posé la question à plusieurs reprises, cette justice des vainqueurs qui sera à l'œuvre à La Haye. En tout cas, est-ce que ce n'est pas un processus trop long qui risque à nouveau de ne pas éclaircir la situation avant la prochaine élection présidentielle dans 18 mois?
Non, mais je vous ai dit tantôt que, quoi que votre impatience soit justifiée, l'œuvre de justice est une œuvre délicate. Vous savez, pouvoir dire que quelqu'un est responsable d'une situation, il faut s'assurer d'avoir fait les investigations nécessaires. Généralement, les procès les plus compliqués, comme ceux qui sont consécutifs à de telles crises, prennent du temps. Vous pensez que 3 ans, c'est beaucoup, mais comme je vous l'ai rappelé, dans certains cas, les procès ont duré des décennies. Et aujourd'hui, nous en sommes encore à régler la question du Rwanda. C'était en 1994. Certains sont aujourd'hui poursuivis devant les juridictions françaises, 20 ans après. Donc, c'est vrai qu'il y a détention, et en toute chose, la détention doit être une exception. Mais je suis conscient, je suis convaincu que les magistrats de la Cour pénale internationale ont hautement conscience de cela.
C'est le bon endroit pour le juger, c'était pas plutôt à la justice ivoirienne de le faire?
Vous auriez encore taxé ces juges à l'occasion d'avoir fait preuve de partialité ou de militantisme. Nous pensons que la neutralité de la Cour pénale internationale est une garantie de bonne justice aussi pour lui.
Alors pour l'instant, on ne sait pas encore s'il y aura un procès de Laurent Gbagbo, puisqu'on attend toujours l'audience de confirmation des charges. S'il venait à être libéré, qu'est-ce que vous allez faire
C'est une décision de justice qui émane d'une juridiction et qui n'est pas forcément celle qui devrait être imposée à la Côte d'Ivoire. Nous avons des chefs d'inculpation pour lesquels nous le poursuivons, qui ne sont pas forcément ceux qui...
Crimes contre l'humanité, viols, etc.
C'est des infractions que nous poursuivons en commun. Mmh. Mais il y a d'autres infractions.
Les délits financiers.
Les délits financiers chez nous. Donc si la CPI venait à estimer qu'ils n'étaient pas coupables des faits qui sont de leurs compétences, il reste que chez nous, il est poursuivi pour des faits qui sont différents. Donc, nous avons le loisir de continuer nos procédures pour déboucher.
Donc, il est poursuivi par deux juridictions, par la Cour pénale internationale et par la justice de votre pays?
Non, en l'état, nous avons cédé la compétence à la Cour pénale internationale. Mais ce n'est pas une renonciation définitive.
J'entends bien.
Est-ce que vous ne faites pas une justice à la carte? Par exemple, vous envoyez Charles Blégoudé et Laurent Gbagbo, Charles Blégoudé, l'ancien leader des Jeunes Patriotes, et Laurent Gbagbo à La Haye, et puis vous décidez finalement que Simone Gbagbo, qui est elle aussi poursuivie pour des faits similaires, l'ex-première dame, finalement vous décidez de la juger en Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez motiver une telle décision? C'est ou tout ou rien.
Ah non, c'est pas comme ça la justice, c'est pas un package. C'est
la justice,
la responsabilité est personnelle. Là,
oui, mais la Cour pénale internationale est une justice de substitution.
Simone Gbagbo reste en ce moment même en Côte d'Ivoire.
Pour Simone Gbagbo, nous avons été les premiers à la poursuivre. Nous continuons les procédures. Et donc, pour l'instant, nous voudrons épuiser notre compétence. Lorsque nous aurions fini nos procédures, nous aviserons. C'est ce que nous avons dit. Je vous ai bien expliqué que dans le cas de Blégoudé, c'est d'abord la CPI qui a lancé le premier mandat d'arrêt, tout comme Laurent Gbagbo. Donc, dans la chronologie des faits, ce sont les premières personnes sollicitées qui y sont pour l'instant. Et nous disons que nous avons également engagé une procédure contre Simone Gbagbo avant que la CPI ne la poursuive. Oui. Autant dans la logique de leur poursuite antérieure, ils ont bénéficié de la possibilité de continuer, autant dans la même logique de notre poursuite antérieure, nous souhaitons bénéficier de la possibilité de la poursuite.
Elle est actuellement sous écrou, en résidence surveillée. Qu'est-ce qu'elle risque? Au juste, on sait que votre pays ne pratique pas la peine de mort, même si elle figure encore dans les textes. Qu'est-ce que risque l'ex-première dame?
Vous n'imaginez pas la Côte d'Ivoire en train de décider de faire passer l'ex-première dame au poteau. Ce n'est pas dans notre culture.
C'est bien pourquoi je précise.
Voilà. Le maximum de la peine, c'est la peine à vie.
Donc, la réclusion à perpétuité.
Non, pas de réclusion à perpétuité, l'emprisonnement à vie. Parce que la réclusion à perpétuité suppose que vous allez aller faire des efforts physiques au cours de votre détention. Or, l'emprisonnement à vie, eh bien, vous restez en prison, tout simplement.
Donc, c'est ce qu'elle risque.
C'est ce qu'elle risque si les faits qui lui sont reprochés sont avérés dans la nature de ceux qui débouchent sur telle condamnation. Il peut se trouver qu'à la fin de, l'enquête, qu'elle ne soit pas retenue dans les liens de la prévention pour les faits criminels qui déterminent donc une telle peine d'emprisonnement, mais pour des faits délictuels qui déterminent autre peine d'emprisonnement, donc les délits économiques qui peuvent aussi donner lieu jusqu'à 20 ans d'emprisonnement lorsque les faits sont avérés et que leur préjudice est supérieur à 110 millions de francs CFA.
Est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de garder un certain nombre de personnes en Côte d'Ivoire, d'anciens proches de Laurent Gbagbo, pour mieux les amnistier avec les élections qui arrivent pour 2015? Ce sera un symbole de réconciliation qui serait donné. Est-ce que vous n'êtes pas en train de, finalement de garder cette carte sous le coude actuellement?
Non, l'amnistie ne suppose pas que vous soyez déjà détenu. L'amnistie se prend, c'est une loi qui est prise. Vous pouvez être libre, poursuivi et être amnistié. Bon, dans le cas de ceux qui sont aujourd'hui poursuivis, je ne pense pas que nous débouchons sur une amnistie. Je reste persuadé que la volonté du président de la République de ne pas favoriser la répétition de ce qui est advenu va déboucher sur le fait que ces personnes-là soient jugées, condamnées ou libérées, mais jugées. C'est ça qui est le plus important. Pour que l'histoire, notre histoire commune, à un moment donné, soit figée et qu'à tout moment, il n'y ait plus de discussion sur ce passé.
Si dans les mois qui viennent, la Cour de pénale internationale lance des mandats d'arrêt contre des personnes qui sont dans l'entourage d'Alassane Ouattara, par exemple dans la garde républicaine, des gens qui participaient aux exactions commises du temps des forces nouvelles, est-ce que vous pensez que le pays sera... on verra ces personnes devant la CPI, comme ça a été fait pour Charles Blégoudé et Laurent Gbagbo?
Vous savez, en matière de justice, comparaison n'est pas raison. Mais s'il s'avère que des mandats ou des demandes d'arrestation sont exprimées, si elles arrivent au moment où nous avions déjà commencé nos poursuites, nous parlerions dans le même cas que Mme Simone Gbagbo. Si elles arrivent au moment où... Mais je vous dis qu'elles sont poursuivies devant les juridictions ivoiriennes. Permettez que je ne les cite pas.
Qui est poursuivi?
Je ne peux pas les citer. C'est ça la difficulté de l'instruction. Mais des personnes sont poursuivies devant les juridictions ivoiriennes. Peut-être qu'il y en a eu qui sont passées sur la place publique. D'accord, mais là, vous savez que certains sont poursuivis.
Donc il est possible que d'ici les élections, des personnages importants, d'anciens commandants de zone, soient déférés devant la justice?
Non, nous aviserons. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis que si les demandes sont formulées, nous les examinerons. Alors, s'il y a des raisons qui militent en faveur de la cession de notre compétence, nous le ferons. Alors, s'il n'y a pas de raison qui milite en faveur de notre cession de compétence, eh bien nous l'exprimerons à la Cour pénale internationale.
Justement, dans un récent entretien au quotidien Fraternité Matin, Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale, et qui a longtemps été le chef des Forces Nouvelles, de la rébellion des Forces Nouvelles, qui avait après donné appui au président Ouattara, s'est dit certain de ne pas pouvoir être visé par la Cour pénale internationale. Selon vous, qu'est-ce qui le rend aussi serein?
Mais c'est qu'il doit être conscient de n'avoir rien fait qui puisse militer en faveur donc de sa présence dans cette juridiction. Vous savez, la Cour pénale internationale a quand même un champ de compétences bien déterminé. Donc le statut de Rome détermine les raisons pour lesquelles la Cour pénale internationale peut s'intéresser à une personne. S'il estime ne pas être dans ce champ, eh bien, il a le droit de dire qu'il n'est pas du tout inquiété. C'est comme si on vous dit aujourd'hui, Monsieur Ben Simon, vous risquez d'aller à la Cour pénale internationale. Mais il n'y a rien fait qui puisse le justifier. Vous garderez votre sérénité.
Mais ça veut dire aussi à tout le moins qu'il n'est pas inquiété par les autorités en place.
En Côte d'Ivoire? Non, ouais. Il n'est pas poursuivi en Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait l'objet de poursuite en Côte d'Ivoire.
Après l'installation donc à la présidence d'Alassane Ouattara, avec le soutien de la France, on peut le rappeler, on a eu peut-être l'espoir ou le sentiment de la fin de l'histoire, d'une réconciliation qui était en marche. Or, l'ancien président Gbagbo ne manque pas de soutien. Son fils sur place, Michel Gbagbo, harangue les troupes en parlant, je cite, d'une dictature en place. Est-ce que un scénario n'est pas à l'œuvre pour que dans un an et demi, lors de la présidentielle, on revive au fond des troubles, une déstabilisation comme l'a connu votre pays pour la précédente élection présidentielle?
Alors, je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Quand vous dites que le président Alassane Ouattara a été installé avec l'ordre, avec l'aide de la France, je pense que on s'hasarde. C'est l'opération Licorne, affiliée à l'ONUCI, et l'ONUCI a reçu mandat, donc, de protéger les populations ivoiriennes pendant la période de la crise, qui a donc intervenu dans ce sens.
Monsieur le ministre, lorsqu'on revoit les images, on peut quand même avoir le sentiment que la France a joué un rôle. Je maintiens ce que je dis et je comprends parfaitement que vous ayez cette lecture.
Voilà, mais un rôle dans un ensemble, d'accord, il ne faut pas indexer la France comme ayant
décidé la question,
d'aller
monsieur le ministre,
que
je vous pose,
pour installer quelqu'un.
Sur la question que je vous pose, est-ce qu'on n'a pas tous les éléments pour revivre au fond l'instabilité qu'on a connue sur la précédente élection dans un an et demi avec à nouveau le camp Gbagbo qui garde des soutiens, qui n'est pas complètement désarmé?
Non, non, je ne pense pas que nous allions dans un tel cas de figure. Vous savez, comme je vous le disais en off, le président a tenu à ce que ces élections soient organisées à l'échéance constitutionnelle prévue pour que la Côte d'Ivoire reparte dans la normalité et que nous atteignions l'émergence en 2020.
Vous nous confirmez bien sûr que Alassane Ouattara sera candidat à l'élection présidentielle dans un an et demi?
Ben, rien ne lui est interdit.
Non, non, mais
il annoncera par lui-même au moment opportun.
Je vous pose la question, monsieur le ministre, parce que vous allez encore dire que c'est une vision faussée de journaliste, mais un certain nombre d'informations ou de rumeurs circulent sur l'état de santé du président Ouattara. Rien ne l'empêche.
Qui se porte très bien. Et donc, rien ne l'empêche, en tant que bien portant, de pouvoir, et jouissant de tous ses droits, de pouvoir être à nouveau candidat. Et je pense que les Ivoiriens le souhaitent. Hein. Pour la plupart des Ivoiriens...
Il n'est pas diminué par la maladie, il est en pleine forme pour vous.
Il est en pleine forme, il travaille comme nous l'avons toujours connu. Et je dois avouer également que quand vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, vous devez savoir qu'il a beaucoup donné en très peu de temps. Et qu'il serait plutôt intéressant que l'on lui permette donc de continuer cette œuvre. Aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire, c'est un chantier, c'est des gros efforts pour que les Ivoiriens se sentent plus à l'aise.
Il y a déjà un autre candidat déclaré à la présidence, c'est l'ancien chef de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui a créé son propre parti, donc
pour
le leader.
Pour qu'il n'y ait pas de confusion, il porte le même nom que vous, mais ce n'est pas vous, naturellement.
Voilà. Bien sûr.
Et donc Mamadou Koulibaly a déjà des réserves sur la façon dont s'en manche le prochain scrutin, notamment la constitution de la commission électorale, qu'il estime déjà pas en mesure d'être indépendant. Qu'est-ce que vous répondez à ces questions? Il a aussi beaucoup d'inquiétudes sur le climat sécuritaire et le problème de circulation des armes, etc. dans le pays.
Vous savez, cette commission électorale indépendante que nous proposons a été mise en place sur la base donc de recommandations de certains spécialistes des élections comme le NDI qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont fait des études, qui ont regardé. Nous avons essayé de répondre. Si vous regardez, c'est une question de chiffres. Voilà.
C'est un problème de répartition, surtout. On a bien vu lors des précédentes élections à quel point la commission électorale a suscité un problème dans ces élections. Et
mais
là, vous êtes en train de faire une commission électorale qui sera plus favorable au gouvernement.
Non, je suis désolé, M. Ben Simon, j'étais membre de la commission, j'en étais le vice-président. Nous avons travaillé de manière consciencieuse et jusqu'à la dernière minute. Les résultats que nous avons compilés. Vous savez, dans ce processus électoral, ce que l'on oublie souvent, c'est qu'il y avait 3 PV sur chaque résultat. Et lorsque nous recevions les nôtres, l'ONUCI recevait le sien et donc le facilitateur recevait le sien. Donc il y avait 3 exemplaires identiques des mêmes résultats. Nous les avons compilés et au moment où... Ceux donc du camp Gbagbo s'étaient rendus compte que les résultats n'étaient pas à leur faveur. Vous avez vu à la télévision,
ouais, cette image,
ils ont
arrache,
empêché
en effet,
la proclamation.
PV,
ouais. C'est de là que le problème est parti. C'est ce geste fait à la face de la nation et de la communauté internationale qui a enclenché un processus de doute. Sinon, la commission a travaillé en toute sérénité jusqu'à la dernière minute.
Mais la prochaine, elle risque d'être un peu déséquilibrée, d'après...
Elle n'est pas déséquilibrée.
C'est ce que dit déjà le candidat de l'opposition déclaré.
Je vous dis que si on va dans le sens de ce que l'AFD a dit, ils veulent 16 membres. Bon, généralement, une telle commission doit avoir un chiffre impair pour qu'en cas d'équilibre de vote, qu'il y ait donc possibilité de trancher. Donc 16 membres, le chiffre n'est pas très bon. Si nous prenons 15 membres, quelle est la différence entre 13 et 15. Voilà, il n'y a que deux membres. Qu'on dise on veut 4 à l'opposition, même si vous leur en donnez 10 aujourd'hui, ce n'est pas sûr qu'ils puissent être d'accord même dans la désignation des 10. Donc je pense qu'on crée un faux problème pour cacher un réel problème. Le temps qu'eux-mêmes se mettent d'accord sur leur capacité donc de désigner leurs représentants. Si vous en dites 10, ils sont plus de 27 partis. Comment ils font ?
Mais l'un des principaux enjeux de ces élections, ça va être la participation notamment du Front populaire ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse aller à ces élections s'il estime que les règles du jeu sont faussées dès le départ et que cette commission électorale lui sera défavorable ? Est-ce que pour la réintégration dans le jeu politique de l'opposition, est-ce que vous n'allez pas devoir finalement faire quelques concessions et offrir une commission électorale beaucoup plus équilibrée ?
Moi, je vous ai dit que je pense que la commission est équilibrée. Et maintenant, il reste qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un d'aller à des élections. Et même si vous réglez ce problème, il peut en surgir un autre. Et si vous tenez à régler tous les problèmes avant d'aller aux élections, vous risquez de ne pas aller aux élections. Donc, je pense, si moi j'étais de leur bord, j'aurais dit, allons aux élections.
C'est le souhait en tout cas du, c'est le souhait du gouvernement, évidemment, parce que si les élections se faisaient sans opposition, évidemment, ça poserait un réel problème.
Il y a eu le boycott, ça n'a pas débouché sur la guerre en 2002. En 2000, il y a eu le boycott de certains partis et donc, pendant ces élections. Vous savez qu'il y en a qui ont été déclassés et donc qui n'ont pas participé à l'élection.
Ça a débouché sur des crises graves.
C'est venu plus tard, mais je veux dire qu'on peut faire des élections avec ceux qui sont partants pour les élections. L'idéal, c'est que tout le monde y prenne part.
On
ne peut pas vouloir répondre à tous les désidératas de quelqu'un avant qu'on aille aux élections. Ce serait une dictature d'une minorité sur la majorité.
Au-delà de ce côté institutionnel, bien qu'important, il y a aussi le problème, il y a des craintes liées à l'état du pays, à la possibilité de voir certains munis d'armes. On parle des dozos qui sont ces chasseurs traditionnels qui disposent d'armes et qui ont l'air d'être assez laissés à eux-mêmes en l'état actuel. Ça a été mentionné de même par l'opposition. Ce genre de problème de risque de facteurs d'insécurité, est-ce que vous pensez que le pays aujourd'hui est assez pacifié? On voit qu'il y a une levée de l'embargo sur les armes légères. Est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui de voir rentrer encore des quantités d'armes qui pourraient circuler de façon dangereuse en Côte d'Ivoire à la veille d'un scrutin sensible?
Non, soyez rassurée, Madame Malibeau, la Côte d'Ivoire est bien gouvernée aujourd'hui. Je pense que quand l'État a des bases saines, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ces chasseurs traditionnels auxquels vous faites allusion, nous travaillons.
Ils sont quelques 60 milliers.
Oui, mais c'est vrai qu'au moment, au plus fort de la crise, il y a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, naturellement, l'État travaille à réduire autant le plus possible leur implication dans la sécurité.
Qu'est-ce qu'il aurait proposé pour de quelle façon l'État travaille à ce sujet?
Mais en fait, les chasseurs traditionnels, ce n'est pas un travail. Pour ceux qui connaissent la culture des dozos, ce sont des activités comme vous et moi, nous pourrions les faire, aller à la pêche, aller à la chasse. Ça vient après votre travail de tous les jours. Donc, normalement...
Mais ils sont armés et il y a eu des dérives de masse.
Oui, vous pouvez... Un chasseur est forcément armé.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de chasseurs armés Kalachnikov. Et en fait, le principal problème, c'est que ces gens demandent en quelque sorte un salaire pour service rendu.
Oui, mais si la démobilisation les prend en compte, donc tous ceux qui font l'objet de démobilisation, ce sont ceux qui ont combattu. Aujourd'hui, je peux vous dire que par rapport à notre planning, en fin 2014, nous devrions avoir démobilisé tous ceux qui sont enregistrés. Nous travaillons avec les institutions financières dans le sens d'avoir les moyens, parce qu'en 2013, on a fait un grand bond, près de 27 000 démobilisés. Nous pensons pouvoir achever cela parce que nous sommes globalement autour de 65 à 70 000 à démobiliser. Et le président tient à ce qu'il y ait une démobilisation totale à la fin de l'année 2014 pour que nous entrions en 2015 avec le moins d'armes possible en Côte d'Ivoire.
Alors, il y a encore minimum 30 000 hommes à démobiliser.
Oui.
Un regard sur la région, avec des crises à vos frontières. Il y a eu la République centrafricaine avec les réfugiés, ou le Mali qui a été menacé par le djihad. Comment avez-vous réagi face notamment au risque de division du Mali? Quel rôle diplomatique pouvez-vous jouer, ou êtes-vous en mesure de jouer aujourd'hui?
Écoutez, le président de la République de Côte d'Ivoire, au moment du déclenchement de la crise au Mali, était le président en exercice de la CEDEAO. Il a été le premier à réclamer immédiatement le rétablissement donc de l'unité du pays et à solliciter toutes les forces internationales pour venir au secours du Mali. Vous avez entendu cette déclaration au début, et je pense que c'est cette fermeté dont il a fait preuve qui a permis donc au Mali de ne pas connaître cet éclatement. Aujourd'hui, entre il n'y a pas véritablement d'éclatement entre le nord et le sud. Il y a quelques poches de résistance dans certaines localités, mais la France, la Côte d'Ivoire, qui a aussi des troupes là-bas, et les autres États qui ont des troupes, travaillent à faire reculer au maximum cela.
Cette menace est éradiquée aujourd'hui au Mali pour vous ?
À presque 90%. On ne peut pas dire que c'est à 100%, parce que vous savez, comme j'ai dit, il y a toujours des radicaux dans des mouvements qui n'ont pas les mêmes préoccupations que les autres. Donc, ils continuent des velléités d'attaque, on voit des bombes qui explosent vers les camps militaires français, ceci, cela. Mais par rapport à ce que nous avions vu en mars 2012 et aujourd'hui, où on coupait les bras, les jambes, on fouettait, c'est plus du tout le même cas.
Est-ce que vous pensez, comme certains, que le président Ibrahim Boubacar Keïta met trop de temps à engager le processus de réconciliation avec les groupes armés du Nord ?
C'est la même chose que dans le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez, mettre trop de temps, c'est toujours prendre l'appréciation par un bout. Or, les problèmes sont profonds. Pour ceux qui connaissent un peu le Mali, je sais que vous avez fait plusieurs reportages. Quand vous alliez dans ces zones du Nord, vous comprenez qu'il y a réellement des problèmes et qu'il faut prendre le temps de les résoudre.
Est-ce qu'il y a une volonté de discuter ?
Mais oui, puisqu'il vient de nommer un ministre chargé de la réconciliation, qui est l'ancien Premier ministre Keïta. Donc, le fait de mettre cette institution en place démontre son intention donc de trouver une solution au problème. Et il a été aussi au Nord dès qu'il est arrivé au pouvoir. Je pense que ce sont des démarches qui doivent aller dans le sens donc de la réconciliation au Mali.
Sur la situation de la République centrafricaine, qui est également menacée d'effondrement, pourrait-on dire, une situation assez tragique, vous avez des réfugiés, quel rôle éventuellement diplomatique ou militaire la Côte d'Ivoire, même question, serait-elle et est-elle en mesure de jouer aujourd'hui ?
Diplomatiquement, le président de la République et l'ensemble des institutions ivoiriennes participent à divers niveaux, aux différents sommets, réunions, à l'Union africaine, à la recherche de solutions pour la Centrafrique. Nous souhaitons vivement, compte tenu de notre passé récent, que ce pays frère sorte rapidement de ce cycle qui est totalement déplorable. Et nous savons aussi, nous nous souvenons que la Côte d'Ivoire a déjà été à troupes armées en Centrafrique. Et donc, si nous étions sollicités et que nous disposions des patrouilles nécessaires, nous les enverrions également en Centrafrique, comme les autres frères africains du Burundi et autres sont venus à notre rescousse lors de la difficulté de notre pays.
Vous seriez prêt éventuellement à envoyer des casques bleus si vous étiez sollicité? Vous seriez prêt à envoyer des hommes pour participer à une opération de maintien de la paix en Centrafrique?
Je ne suis pas celui qui le décide, mais je pense que le président de la République, vu son esprit, ne serait pas contre la possibilité d'assister utilement des frères pour sortir de crise.
Même si cela avait laissé quelques souvenirs amers, la participation de soldats ivoiriens en Centrafrique, ce sont ces mêmes soldats qui étaient revenus et qui s'étaient révoltés en 99 contre le président Bédié.
Oui, mais M. Ben Simon, à chaque jour suffit sa peine. La gestion 99 de la Côte d'Ivoire n'est pas la gestion 2014. Nous pensons que... Et puis, la bêtise vient du fait que vous répétiez les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous avons déjà eu l'expérience, nous avons tiré les leçons, nous ferons en sorte que cela ne se reproduise pas.
Merci Guillaume Koulibaly, ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, ministre également des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques, pour ce tour d'horizon de la reconstruction, on peut dire, de votre pays. Nous suivrons avec beaucoup d'attention ces prochains mois, même si votre pays a pratiquement disparu de la scène internationale. On l'a vu dans ce flash. C'est plutôt rassurant pour vous ?
Oui, c'est très rassurant. Vous savez que les journalistes ont ce goût pour le croustillant. Bon. S'il n'y a plus de problème, on oublie la Côte d'Ivoire.
Là, monsieur le ministre. Merci en tout cas. Nous suivrons ces prochaines élections avec beaucoup d'attention dans un an. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans tout juste une semaine. Excellente suite de programme sur les différentes antennes qui nous relaient.